François-Philippe Champagne, bonjour.
Merci de me recevoir. C'est un grand
plaisir. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. On vous connaît comme ministre, mais moi comme personne. Vous êtes né sur la rive sud de Montréal. Vous avez grandi en Mauricie. Racontez-nous votre enfance. Quelles étaient les valeurs dominantes à la maison?
Oui, effectivement, ça a toujours été comme un grand secret bien gardé dans mon passeport. C'est marqué Greenfield Park. Et je sais quand les journalistes ont vu ça, mais vous venez pas de la Mauricie. Alors, je dis, ma mère a donné naissance à l'hôpital Charlemagne. Mais on n'a jamais vraiment habité, en tout cas, que je me souvienne vraiment à Longueuil. Malgré que la mairesse de Longueuil vous dirait très contente que quand je l'ai rencontrée, elle disait, vous revenez à la maison. Je dis,
vous
oui.
êtes une fierté.
Elle était très gentille. J'ai grandi, alors là, je vous dévoile une partie de ma vie que peu de gens connaissent. J'ai vraiment grandi plus à Québec quand j'étais jeune, parce que moi, j'ai vécu avec ma mère. Mes parents étaient divorcés dans les années 70. J'ai vécu avec ma mère, principalement jusqu'à à peu près l'âge de 15-16 ans. Après ça, je suis retourné en Mauricie, vivre avec mon père. Puis là, c'est là où j'ai fait mes études collégiales. L'école élémentaire, l'école secondaire, ça s'est fait principalement à Québec. Je suis retourné en Mauricie la fin de semaine. Donc, vous savez, c'était cette époque-là où c'était pas nécessairement, comme on appelait, des gardes partagées, mais c'était plus que on vivait avec un parent ou l'autre, puis la fin de semaine, on faisait des choses comme ça. Donc, j'allais en Mauricie la fin de semaine, je faisais l'école à Québec. Fait que c'est pour ça que j'ai un sentiment d'attachement fort, évidemment, avec la Mauricie, parce que, bon, c'est la région que je représente, mais je connais très bien Québec parce que j'ai fait mes premières classes, alors...
Votre mère faisait quoi à Québec?
Ma mère était fonctionnaire provinciale. C'était tout un défi. Je dois lui donner beaucoup de mérite parce que, bon, mère monoparentale, dans cette époque-là aussi, on parle... Moi, je suis né en 70, dans les années 70.
Vous avez un frère?
Mon père s'est remarié. Alors, j'ai un demi-frère et une demi-sœur. Bon, évidemment, mon frère et sœur, mais je pense qu'on n'appelle plus ça comme ça aujourd'hui. J'ai un frère et sœur. Quand mon père s'est remarié plus tard... Mais on a quand même d'âge, on a une bonne dizaine d'années, 10 à 15 ans de décalage, si je peux me permettre. Donc, ma jeunesse, ça a été ça. Mais évidemment, quand je suis retourné en Mauricie, bien là, avec mes frères et sœurs, on a une grande proximité. Mais ça a été... c'est un bout de chemin de la vie que les gens connaissent moins. Les gens...
Vous êtes le fils unique de votre mère.
Oui, effectivement.
Et votre père était homme d'affaires en Mauricie, c'est
oui,
ça?
Oui, bien... connu. Moi, je viens d'une famille, mon père, c'était un bâtisseur. Hein? Cette génération-là... de baby-boomers qui sont partis de pas grand-chose, finalement. Mon père, famille de 13, à peu près. Ma grand-mère, du côté de mon père, imaginez, elle a eu, si je me trompe pas, 13 enfants. Il y en a qui sont morts jeunes aussi. Mais en plus, imaginez, elle avait le dépanneur ou la cafétéria de l'usine. Non seulement elle faisait manger à cette époque-là pour toute cette grande famille-là, mais elle nourrissait aussi les travailleurs. Quand je regarde des histoires de ma grand-mère puis que je vois des photos d'époque, je me dis « wow ». C'est vraiment le Québec d'une époque industrielle. Oui, oui. Des femmes qui, comme ma mère, je regarde ma grand-mère, il y avait une charge de travail qui était importante. C'est quasiment de la survie avec des grosses familles comme ça.
Et votre père faisait quoi?
Mon père, c'est un homme d'affaires, c'est un entrepreneur, c'est un bâtisseur. T'sais, c'est vraiment de cette génération-là, comme je disais, de baby-boomer, qui est avocat de formation, qui a fait ses classes, la Chambre de commerce de Québec, ensuite de ça, qui s'est lancé dans différentes industries, dans différents domaines.
Un vrai entrepreneur.
Oui. Vraiment, celui qui est capable de tourner toute situation dans une situation, j'allais dire, enviable et profitable. Il m'a toujours impressionné parce que c'est pas nécessairement un ingénieur, c'est pas nécessairement un mathématicien ou quelqu'un, ou même un comptable, c'est un avocat, mais qui a toujours eu le bon flair. Tu sais, comme on dit chez nous, le flair des affaires. Mm-hmm. De voir une situation, d'être capable de tourner ça, de s'entourer, de trouver le financement, puis d'avoir des entreprises qui, aujourd'hui, fleurissent, qui engagent beaucoup de gens, puis qui font vivre plusieurs familles.
Vous avez fait vos études de droit à l'Université de Montréal, et par la suite, vous êtes allé étudier à l'étranger. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir aller ailleurs?
Bien, moi, j'ai toujours... voulu partir pour mieux revenir. Hein? Déjà jeune, je savais que si vous regardez, comme on dit, le fameux journal des finissants, là, même je pense à l'école primaire ou secondaire, je ne me rappelle pas s'il y en avait un ou deux, mais il y avait déjà un dessin qui se disait que François-Philippe Champagne voulait faire de la politique, mais aussi, j'ai été attiré par le droit international. Moi, je me suis toujours dit, on gagne à aller chercher de l'expérience, des connaissances à l'étranger. Vous avez raison, je fais mes études à l'Université de Montréal. Et ensuite, c'était un moment où, vous savez, c'est les balbutiements de l'ALENA. Hein?
Muchas gracias. Merci beaucoup. Thank you. And may God bless you all.
On commençait à regarder du côté des États-Unis, mais je m'étais dit, il y a peu d'avocats au Québec, au Canada, qui connaissent vraiment le droit américain. Alors, croyez-le ou non, c'est à l'époque où il n'y avait pas d'Internet. Alors, on prenait, il y avait des panneaux qui étaient affichés à l'université. Je me rappelle, j'avais découpé un de ces petits coupons-là de l'université Case Western Reserve à Cleveland, dont je ne connaissais pas l'existence, bien évidemment. Et vous allez sourire parce que j'ai appliqué. À l'époque aussi où je suis allé chercher un mandat poste de 50 $ américains, c'est comme ça qu'on faisait, j'ai envoyé cette demande-là. Vous savez, je faisais beaucoup de choses, donc mes notes étaient moyennes. Après ça, je pense un mois et demi plus tard, je reçois une réponse qui me dit « Vous êtes admis ». J'étais tellement incrédule que j'ai appelé. J'ai dit « Êtes-vous sûr que vous n'êtes pas trompé? » J'ai dit « Bon, écoutez, on est très sérieux si on vous envoie une note d'admission. » Et là, j'ai fait mon cours et à la toute fin, lorsque j'avais mon diplôme bien en main, je suis allé voir le doyen de la faculté. Je dis « Écoutez, il reste un grand mystère dans ma tête. Pourquoi vous m'avez admis dans votre programme à l'université aux États-Unis? » Il m'a dit « Écoutez, voulez-vous savoir la vérité? » Bien, je dis oui. Il m'a dit « Écoutez, c'était la première année qu'on ouvrait notre programme aux étudiants étrangers et vous étiez le seul Canadien qui a appliqué. » Alors, dans la vie, des fois, je me dis « La chance me sourit cette fois-là. »
Le hasard a bien fait les choses.
Le hasard a bien fait les choses.
Vous avez aussi pratiqué le droit en Italie, à Rome. C'est une chose qu'on sait moins de vous. Vous parlez couramment l'italien.
Oui, bien, écoutez, ça, c'est aussi la vie. Moi, j'ai toujours dit, il y a comme une pyramide, hein? Ça prend des compétences, ça prend une ambition saine, puis beaucoup de chance. La même chose, quand j'étudie à l'université américaine, mon collègue de classe, on avait des pupitres ensemble, un Italien, qui m'a dit, après la fin de nos études, m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu cherches un emploi? Ben, je dis, oui, mais bon, moi, j'avais rien de prévu trop, hein? J'avais 24 ans, je pense à 23 ans. Non, il me dit, est-ce que ça te tenterait de venir travailler avec nous? Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Italie, à Gênes, pas à Rome, à Gênes, du côté de la mer en Ligurie, près de la Méditerranée.
Oui.
Et ce qui était assez intéressant à l'époque, c'est une aventure qui devait durer, oh mon Dieu, ça devait durer une année, ça a duré 5 ans. Vous avez raison, vous savez, je m'appelle Champagne, il n'y a pas beaucoup de sang italien dans notre famille. Et j'ai appris l'italien, comme on dit chez nous, un peu sur le tas, comme ça. Je suis jamais allé à l'école, mais c'est fascinant quand même à 53 ans aujourd'hui. Je suis capable encore de le parler couramment. Et c'était probablement par nécessité, parce que vous savez, à cette époque-là, en Italie, il y avait peu d'étrangers. Moi, j'étais le seul étranger, puis je sais pas si j'ai l'air jeune, mais imaginez-moi, à 24 ans, j'étais pas plus grand, en tout cas. Et quand je suis arrivé, je me rappelle toujours, parce que mon bureau était au dernier étage, je me rappelle une fois d'avoir pesé, je pense que c'est le 9e étage, et il y a une dame qui me regarde, elle dit « Ah, c'est le fun que tu viennes visiter ton père qui travaille... » Non, mon père, il vit pas ici, il travaille pas ici. Fait qu'elle me dit « Ah, mais tu viens visiter ta mère? » Non, non, je dis « Ma mère est bien à Québec. » Bien, elle dit « Qu'est-ce que tu fais? » Bien, je dis « Je travaille au 9e étage. » C'était une époque aussi où il y avait peu d'étrangers puis certainement peu de jeunes. Ça m'a aussi permis de mieux apprécier ceux qui font le choix de venir chez nous.
Oui.
Vous savez, moi, j'ai vécu en Italie, en Suisse, en Angleterre. Bon, évidemment, dans des conditions très différentes de ceux qui viennent souvent chez nous, mais je comprends un peu cette réalité, tu sais, de devoir s'adapter, de devoir apprendre, de devoir se bâtir aussi une nouvelle vie, parce que je suis arrivé là seul. C'est sûr qu'aujourd'hui, je regarde ça avec un grand sourire. C'est sûr qu'à 50 ans, retourner en Italie, c'est pas la même chose quand on a 20. À 20 ans, on pense que la vie, ça va ressembler à ça toute notre vie.
Vous êtes donc revenu au Québec en 2014 pour vous présenter à l'élection dans Shawinigan en 2015.
Mon équipe et moi sommes prêts à amener le changement et le 19 octobre, c'est le temps de changer ensemble. Merci beaucoup.
Vous disiez tout à l'heure que vous avez toujours voulu faire de la politique. Qu'est-ce qui vous a motivé à dire « maintenant, je me présente »?
Bien, moi, j'ai toujours pensé, quand on est trop confortable, c'est le temps de changer. Et là, j'arrivais, je pense, j'étais près de la quarantaine. Et là, je me disais, si je ne fais pas le saut maintenant, la vie risque de m'amener ailleurs. Tu sais, vous avez raison, ça devenait confortable. Moi, chaque fois que c'est confortable, j'ai décidé de changer. J'ai décidé d'aller voir d'autres choses. Et c'était un moment de la vie où je me suis dit, c'est le temps de le faire. C'est vrai que passer de Londres à Shawinigan, c'était tout un passage. On m'avait dit, évidemment, un ancien comté de premier ministre. Mais bon, il faut penser que le Parti libéral n'avait pas été élu là depuis M. Chrétien, mon bon ami, mentor. Mais une chose pour vous faire rire, je me rappelle, je faisais campagne à Latuc. Parce que vous savez, mon comté, c'est plus grand que la Belgique, pour donner une perspective aux gens. C'est 8 heures de route, nord-sud. Et je me rappelle dans un restaurant, j'étais en 2013, 2 ans avant l'élection, et mon équipe me dit, Monsieur le ministre, mais François-Philippe, là, il faut que tu ailles serrer des mains. Imaginez, je suis dans une pizzeria le midi à Latuc, et là, je regarde les gens, puis je me prends un, je dis, bonjour, mon nom, c'est François-Philippe Champagne. Je me présente aux élections fédérales. Et les gens me regardaient, ils me disent, mais il n'y a pas d'élection. Mais je dis, oui, mais un jour, ils viennent d'avoir une. Et c'est là que j'ai fait 2 ans de campagne, à temps partiel.
Donc, vous êtes revenu en 2013.
2013. Et là, vraiment à temps partiel, je commençais déjà à faire campagne. Mais 2 ans de campagne, parce que c'est un grand comté. Mais ça m'a appris beaucoup d'humilité. Parce que, vous savez, se présenter en politique, c'est l'humilité d'abord. Parce que c'est pas ce que vous avez fait, c'est pas vos expériences, ce que vous avez pu réaliser au niveau professionnel. C'est plutôt ce que vous allez faire pour les gens. Et moi, c'est ça qui m'a toujours rapproché. Moi, je suis proche des gens. Tu sais, les gens chez nous, moi, je me rappelle, je fais toujours ça un peu devant l'épicerie, là. Je me mets là, puis je fais l'épicerie. Alors, les gens m'arrêtent dans tous les rayons. Ma conjointe dirait, t'es quasiment le curé du village, parce que je vais là, puis je parle un peu à tout le monde. Les gens viennent me voir pour toutes sortes de choses. Mm-hmm. Cette proximité-là, pour moi, elle est importante, et c'est ce qui me garde animé.
Back to the moon! Think about that for a moment. The moon!
Tu sais, oui. Les gens disent souvent que j'ai un peu d'énergie, mais cette énergie-là vient des gens qui me disent « continue, une tape dans le dos ».
D'ailleurs, en revenant à Shawinigan, vous renouez avec votre premier amour, Anne-Marie, qui est aujourd'hui oui. votre conjointe. Parlez-nous d'Anne-Marie.
On s'est connus, ça a été comme... Bon, là, je vais prendre un anglicisme où je suis ma première blonde, hein, comme on mm-hmm. dit dans notre temps. Je ne veux pas dire conjointe parce qu'on était bien jeunes. On était à l'école secondaire, 15-16 ans. On s'était perdu de vue pendant, bon Dieu, une trentaine d'années. Elle avait fait sa vie, elle avait 2 filles. On était là dans notre vie l'un et l'autre. Mm-hmm. Alors, on s'est revus. Puis là, bien, ça fait déjà 10 ans qu'on est ensemble. C'est ça que moi, je suis le beau-père de 2 grandes filles, une de 17 et 19, et dont une qui est ici, qui étudie à l'Université d'Ottawa. C'est ça, c'est une belle histoire parce qu'on s'est connus jeunes. La vie nous a amenés. Moi, je suis parti en Europe. Elle a mm-hmm. fait sa vie ici. Puis on s'est retrouvés après, bon, quasiment près de 30 ans. Bon, évidemment, c'est une dynamique familiale intéressante. Elle est plus à Québec. Moi, je suis ici la semaine. On a Shawinigan comme base.
On fait beaucoup de routes.
On fait beaucoup de routes. La logistique familiale, je vous dirais, on est des experts en logistique familiale.
Est-ce que vous trouvez ça difficile?
Oui. La politique, c'est enivrant. Souvent, on dit dans notre vie, est-ce que je suis sur mon X? Oui. Mais ce qui est le plus dur, c'est de concilier ça avec la famille. C'est de ne jamais être là. Hein? Moi, je ne suis pas à la maison. Je ne suis pas à l'extérieur à l'occasion. Je ne suis jamais à la maison par défaut, dans un sens où quand le Parlement ne siège pas, pour nous, c'est le temps où on voyage. Quand on est ministre fédéral, bien, c'est le Canada. Vous savez, je vais à Québec, les gens me disent, on aimerait ça vous voir plus souvent. Je vais à Saskatoon, ils disent, mon Dieu, il faudrait que vous veniez plus souvent. Je vais du côté de... Je ne sais pas, moi, des maritimes, on me dit « Ah, ça fait longtemps qu'on vous a vu ». C'est constant. Et ça, je vous dirais que si je regarde, le plus gros prix à payer, c'est vraiment au niveau de la famille. C'est les conjoints-conjointes. C'est pour ça que pour les collègues, on est dans une époque où on demande beaucoup à nos élus, soit au niveau municipal, on a vu des cas récents, provinciaux, mm-hmm. À l'échelle provinciale, fédérale. Mais moi, je peux vous dire que quand je regarde les collègues, quand je regarde les gens... Les gens donnent beaucoup, évidemment. Les gens le font par passion, ils le font pour le service public. Mais la partie la plus dure, Mme Bégin, c'est vraiment au niveau de la famille. De
oui.
Comment garder cette connexion-là, malgré qu'on est rarement là?
Vous sentez-vous coupable?
Oui.
Merci, je suis juste en retard.
Ce qui est difficile, c'est comment concilier. On en parle souvent, on essaie de faire mieux. J'essaie de faire mieux, puis bon, je me dis, moi, je suis encore chanceux, je peux mm-hmm. conduire jusqu'à ma résidence en Mauricie. Je pense aux collègues qui sont du côté de l'Atlantique. Ceux qui sont dans le nord du Canada, sur la côte ouest, le prix à payer est quand même élevé. Mm-hmm. Parce que, vous savez, la politique, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. C'est sûr que la famille, bien, c'est un peu l'ancrage de tout le monde. Puis c'est vrai que de ce côté-là, moi, j'espère qu'un jour, on arrivera à réformer pour les prochaines générations. On dit qu'on va attirer plus de jeunes femmes en politique, on va attirer plus de jeunes. Je pense qu'un jour... Il va falloir trouver une façon...
C'est pas adapté.
Moi, je trouve que... Évidemment, c'est une institution qui a de longues traditions, mais je pense que si on veut se moderniser, il va falloir avoir cette réflexion-là. Parce que je pense que la jeune génération, elle voit les choses un peu différemment. Elle fonctionne d'une autre façon. Les institutions d'ici sont ancrées dans un certain passé, dans des traditions qui, peut-être, à une certaine époque, était au goût du jour, mais je pense qu'aujourd'hui, on devra faire ça, tu sais, le fait de siéger 5 jours par semaine. Maintenant, bien, il y a une application mobile qui permet, mm-hmm. du moins pour les députés fédéraux, de voter, même si on est sur la route. C'est des améliorations. Mais moi, tu sais, on va avoir, tu sais, des jeunes mères de famille, des jeunes pères de famille. Il va falloir aussi penser comment le Parlement peut aussi être cette conciliation-là.
Vous parliez tout à l'heure de votre bon ami et mentor, M. Chrétien.
Oui.
Parlez-nous de l'impact de Jean Chrétien sur votre parcours?
Ce que j'aime, c'est que les gens apprennent à le découvrir. Moi, j'ai eu ce privilège-là plus jeune. M. Chrétien, C'est un homme qui est plus grand que nature. T'sais. Aujourd'hui, je le vois aller à 90 ans. Il continue. Mais cette connexion-là avec les gens...
Je pourrais rester jusqu'à demain matin, là, mais...
Vous savez, par
que
exemple...
Que vous avez aussi.
Je sais pas s'il y a quelque chose dans l'eau à Shawinigan qui nous rapproche des gens, mais...
Vous êtes encore pas mal en forme, hein? On vous regarde, tout le monde, mais écoutez...
C'est parce que je bois de l'eau du lac des Piles comme toi.
Oui, il y a quelque chose dans l'eau à Shawinigan.
Tu sais, je me rappelle, j'étais jeune, puis il m'avait invité... Madame Chrétien, c'est surtout Aline qui s'occupait de ces choses-là, mais s'assurait d'une certaine façon quand il pouvait de m'inviter. Il était dans un grand dîner en Allemagne, j'essaie de me rappeler. Je pense que c'était à Munich. Et je me rappelle, il m'avait eu une invitation, pas avec le chancelier, mais l'équivalent de la région où on était. Et il y avait le dîner officiel. Alors, vous imaginez le protocole. Moi, je devais être le dernier au bout de la table. Là. J'avais quoi, une trentaine d'années. Vous connaissez M. Chrétien. Il prend les noms. Il dit non, Champagne, lui, il s'assoit à côté de moi. Et puis là...
Il vous appelle Champagne?
Oui, oui. Il dit, viens t'asseoir là. Puis j'avais M. Chrétien, moi, Mme Chrétien. Et là, évidemment, l'autre Allemand regarde, mais c'est qui ce gars-là, entre vous deux? Ah, il dit, ça, c'est un gars de chez nous.
Le premier ministre du Canada, Jean Chrétien. Merci, tout le monde.
M. Chrétien a toujours eu cette façon-là de mettre en valeur les gens de chez nous. Évidemment, mm-hmm. on représente le même comté, mais a toujours eu ce respect-là pour les gens de chez nous, de toujours mettre en avant, par exemple, des gens de la région à l'époque. Et je me rappelle d'une autre anecdote, vous savez, les gens disent j'ai un peu d'énergie, que je me présente, puis je me rappelle une fois, je marchais avec M. Chrétien à Shawinigan. Et M. Chrétien arrivait, puis il dit « Bonjour, mon nom, c'est Jean Chrétien. » Et là, il y a toujours le visage un peu des gens qui regardent, mais bon. Là, je dis « M. Chrétien, je pense qu'à peu près tout le monde vous reconnaît, mais si on est à Shawinigan, on tombe dans le 99,999 %. Il me regarde, tu prends pas de chance. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours dit ça aux jeunes politiciennes et politiciens, n'assumez pas que les gens vous connaissent ou vous reconnaissent. Et pour moi, ça a toujours été un signe d'humilité de M. Chrétien, toujours « Bonjour, mon nom, c'est Jean Chrétien ». On a gardé cette proximité-là parce que quelqu'un qui a quand même vu, c'est des décennies, mm-hmm. il a vu le monde à une certaine époque. Vous savez, Mme Chrétien apprenait l'italien. C'est peut-être pour ça qu'il m'assoyait souvent à côté d'elle. On avait la chance d'échanger en italien. C'est une relation très spéciale. En tout cas, moi, je me sens privilégié parce qu'il y a quelque chose qui nous unit.
Vous êtes encore proche?
Ah oui, 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 oui. Même M. Chrétien utilise les messages textes. Alors, imaginez, et des fois, il m'appelle et dit « Qu'est-ce que tu fais? » Puis là, je sais que dans ce temps-là, je réponds présent. Je sais qu'il veut qu'on se voit. Il vient à la maison, je vais chez lui. Il y a cette dynamique-là qui nous permet. Puis écoutez, c'est sûr que c'est un grand privilège de pouvoir côtoyer quelqu'un comme lui qui a vu beaucoup puis qui redonne. Mais il le fait avec moi, mais il le fait avec mes collègues aussi. Mm-hmm. Je le sais généreux de son temps, de ses connaissances, de son expérience, à qui veut bien l'écouter. Puis des fois, moi, je lui partage. Des fois, on a des échanges assez... Je veux dire, on a corsé parce qu'évidemment,
ah oui?
Ben, dans un sens, les choses ont changé aussi. La façon de faire la politique a changé, la façon de faire des campagnes électorales. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de numérique, il y a beaucoup de... Les médias prennent une importance capitale dans ce qu'on fait, mm-hmm. d'échanger avec les citoyens à travers les médias. Alors, c'est plus qu'une amitié, je ne sais pas, c'est une complicité. Tiens, je cherchais le mot tantôt. Je pense que si vous lui demandiez, parce qu'évidemment, moi, j'ai aucune prétention, M. Chrétien connaît beaucoup de monde, mais je pense que si j'avais un mot à mettre, on a une belle complicité qui oui. s'est bâtie bien avant la politique.
Vous êtes entré au cabinet en 2017. Depuis, vous avez occupé tous les ministères les plus importants. Où trouvez-vous votre énergie? J'ai lu que vous faites du yoga.
Oui, mais entre autres, mais c'est nouveau, ça. Ça,
c'est nouveau dans le sens
qu'à la cinquantaine, c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie, déjà là. Donc, il faut avoir cette capacité-là d'avoir de l'énergie, des saines habitudes de vie. C'est vrai que j'ai commencé, que j'ai fait plusieurs ministères. Puis ça, je vous dirais... Bon, je fais une certaine analogie avec M. Chrétien. M. Chrétien en avait fait une dizaine, hein, je pense. Je ne vais pas compter.
Très expérimenté. Mais il avait...
Et ça, je vous dirais qu'aujourd'hui, je le regarde. Vous savez, quand j'ai été nommé, mon premier rôle, c'était comme secrétaire parlementaire mm-hmm. du ministre des Finances. Je me rappelle, j'avais parlé à M. Chrétien à l'époque. Il m'avait dit, c'est une belle porte d'entrée. Il avait commencé, lui aussi, comme ça. Pourquoi? Parce que pendant 2 années, j'ai pu voir l'élaboration d'un budget. Donc, bien comprendre cette grande machine-là, parce que vous arrivez à Ottawa, vous savez, il n'y a pas un cours pour devenir député. On apprend quand on arrive avec notre expérience, notre expertise. Mais les différents ministères que j'ai eus m'ont aidé parce que Vous savez, quand vous avez fait plus qu'un ministère, vous avez aussi cette perspective-là. Vous savez ce qui est possible et ce qui est moins facile à faire. Vous avez cette vue-là d'ensemble. Alors, quand on me dit que ce n'est pas possible, bien, on peut dire, bien, écoutez, on l'a dû faire comme ça dans un autre ministère. C'est un avantage indéniable. Parce que vous savez, quand vous arrivez dans des grands ministères, il y a une façon de faire. Mm-hmm. Mais d'arriver puis de dire, bien, un instant, moi, je pense que... on peut faire autrement. Ça m'a bien servi. Puis c'est vrai que cette énergie-là, elle est importante. Puis les gens me demandent souvent, écoutez, moi, je me lève le matin, je suis heureux. Vous savez, la politique, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. De transmettre cette énergie-là, je ne sais pas qui avait dit ça, mais une nation ne peut jamais être plus optimiste que ses dirigeants, dans un sens. Alors, moi, je pense qu'on a un rôle de donner cette énergie-là, mm-hmm. d'une vision optimiste de l'avenir. Il y a des défis, il y a des enjeux. Mais moi, je pense, quand on regarde le Canada d'aujourd'hui, on est tous et toutes privilégiés quand même de vivre dans un pays qui inspire, je pense, à l'international.
Avez-vous le temps de loisirs, d'avoir des loisirs?
Peu. Si vous demandiez à ma conjointe, elle dit « Mon Dieu, que tu devrais avoir plus de hobbies ». C'est un travail qui demande beaucoup. Moi, j'aime faire de l'exercice, mais bon, je me suis résigné à des choses que je peux faire seul, donc la course... le yoga, des choses comme ça. Moi, j'aime bien les équipes, mais bon, la réalité de l'emploi du temps. Jogging, moi, j'aime bien. Mais encore là, c'est parce que c'est facile à faire, puis je peux le faire quand je peux, pas nécessairement toujours quand je veux. Tu sais, nous, la famille, on se retrouve, c'est pour moi la rivière, la Mauricie. Quand je peux être sur l'eau, j'adore ça. Moi, je suis un gars qui aime
Avez-vous
l'eau.
Avez-vous un bateau?
Oui. Quand on peut aller en bateau, moi, je trouve que ça nous permet de connecter. Nous, on est chanceux parce qu'on est en Mauricie, près mm-hmm. du parc national. On a besoin de ça. Tu sais, je comprends pourquoi les gens se retrouvaient bien dans la forêt. Tu sais, quand on retourne à l'époque, il y a quelque chose, quand on se retrouve dans la nature, qui nous ramène à l'essence de la vie.
Donc, c'est un besoin pour vous de vous reconnecter
oui.
avec la nature.
Je suis très sociable, mais c'est bien des fois de prendre un moment de lecture, de prendre un moment de sérénité. Vous savez, pour donner, il faut être capable aussi de se ressourcer. On le voit souvent, tu sais, ça va à 100 km/h, mais des fois, pour garder la perspective, il faut prendre un peu de recul pour regarder mieux en avant. Vous me demandiez mon cheminement. T'sais, j'étais parti pour mieux revenir. Mm-hmm. Je voulais arriver avec des compétences, une expertise différente. Vous savez, ça m'a permis d'apprendre une autre langue, de vivre des choses. C'est pas mieux, c'est différent. Puis je pense qu'on a besoin de cette différence-là au sein d'une équipe politique, d'avoir une expérience, une vision de ce que le Canada peut être.
Vos détracteurs disent que vous parlez trop, que vous êtes verbomoteur. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là?
Bien, écoutez, il me parle toujours, alors je me dis que ça ne doit pas être si pire que ça. Je trouve que ça fait partie de notre rôle aussi, comme politicien, comme politicienne, d'être avec les journalistes, de répondre aux questions. C'est une partie intégrante de la démocratie, ce qu'on fait présentement ensemble, de pouvoir échanger. Puis mm-hmm. ce que j'aime aussi, on est souvent vu comme une politicienne ou un politicien, de voir que derrière ça, il y a des hommes et des femmes. Vous savez, mm-hmm. moi, je fais l'épicerie, il y en a souvent... Les gens de la Mauricie savent. Mais quand je suis ailleurs, les gens, « Bien, vous avez le temps? » Bien, oui. Puis quand je suis avec ma fille et on fait du magasinage, bien oui. Je trouve qu'il y a ce côté-là qu'on doit aussi montrer, je pense, aux gens, parce qu'à la fin, on est tous et avant tout
ce
des citoyens et des citoyennes.
Vous voulez dire parler?
Bien, parler, bien, c'est-à-dire... Bien, vous savez, moi, les gens m'accostent à peu près partout. Alors, vous savez, oui, je peux peut-être être verbomoteur, mais je vous dirais, tu sais, quand ça fait 10 ans, les gens me reconnaissent à plusieurs endroits. Donc, je suis assez habitué de pouvoir interagir. Puis honnêtement, je vais vous dire, j'aime ça. J'aime ça parler au monde. Puis le monde,
donc,
on échange sur tout et rien.
Vous essayez pas de corriger ça, finalement?
Oh non. Tant que les gens voudront me parler, je vais continuer de parler. Vous savez, quand on est aussi un député en ruralité, c'est différent. Il y a cette proximité-là des gens. Mm-hmm. Et puis, moi, je trouve que c'est bien que nos élus puissent avoir cette belle proximité-là.
En 2023, votre gouvernement a annoncé des investissements importants dans la filière batterie. Ça va être quoi la prochaine grosse affaire au Canada?
Bien, vous avez raison. La filière batterie, c'était un rêve devenu réalité. En l'espace de quelques mois... Quand j'ai commencé, on parlait quasiment, les premières réunions que j'avais avec mes fonctionnaires au ministère de l'Industrie, on parlait quasiment de la fin du secteur automobile. Moi, je disais, bien non, on vient de vivre, on est en train de vivre l'une des plus grandes transformations technologiques de notre génération. On passe du moteur essence au moteur électrique. J'ai dit, c'est une opportunité.
Mais la prochaine grosse affaire...
Oui, c'est ça. Mais ça, je voulais dire ça parce que je veux juste que les gens réalisent. Tu sais, des fois, on peut se donner une tape dans le dos. On est devenu, selon Bloomberg, les premiers au monde devant les Chinois pour la filière batterie. Tu sais, des fois, je me dis, est-ce qu'on peut être fier? On a attiré des investissements records. Puis on a saisi une opportunité parce que cette filière-là venait. Puis on a réussi à en avoir des investissements chez nous. Moi, je vous dirais, certainement l'intelligence artificielle. J'étais récemment avec un des pionniers dans cette technologie-là. Et je lui disais, à 53 ans, une des grandes révolutions technologiques qu'on a vécues de notre génération, c'était l'Internet. Je suis de cette génération-là. Je sais que pour les jeunes qui nous regardent, ça semble impossible, mais je suis d'une génération où il n'y avait pas d'Internet quand on était jeune.
La préhistoire.
Bien, si vous demandez à mes filles, des fois, ils se demandent comment on faisait. On allait à la bibliothèque puis on cherchait. Et une des choses que j'ai demandé à un des pionniers, c'était le président d'NVIDIA, le PDG d'NVIDIA. J'ai dit, comment vous metteriez en comparaison l'Internet par rapport à l'intelligence artificielle? Et il prend un moment, il me dit, Monsieur le ministre, le potentiel est 1000 fois plus grand. Alors, ce soir-là, je suis revenu à la maison, je me dis, en assumant qu'il se trompe par la moitié ou même 90 %, ça voudrait dire que l'intelligence artificielle pourrait avoir un potentiel 10 fois plus grand que l'Internet l'a eu pour la transformation. Alors que moi, dans le fond, cette révolution-là numérique, ça va avoir un impact. Je ne pense pas qu'on est capable, vous et moi, aujourd'hui, de visualiser et de comprendre l'impact sur les 20, 30. Vous savez, moi, je dis souvent, l'humain est capable de penser de façon linéaire. Mais de la façon dont notre cerveau fonctionne, on a de la difficulté à penser de façon exponentielle. Quand vous allez dans des technologies qui sont révolutionnaires, comme l'Internet l'a été, comme l'intelligence artificielle va l'être, comme le quantique va l'être, là, il faut penser de façon exponentielle. On se rappellera des jours où, par exemple, le téléphone portable, ça ne faisait pas partie de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, bien, c'est un outil essentiel pour la plupart d'entre nous. Alors, d'imaginer quel sera l'impact de cette technologie. Mais encore là, moi, je dis, il faut passer de la crainte à l'opportunité. Mais pour faire ça, ça nous prend un cadre réglementaire. Je pense qu'il faut rétablir la confiance parce que les gens qui nous écoutent doivent se dire, oui, mais puis je les comprends. Moi, j'ai la même préoccupation. Et c'est pour ça qu'on essaie de développer un cadre réglementaire. Puis le Canada est un peu un chef de file de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle responsable au service de la population, au service de l'humanité.
Vous savez que plusieurs vous voient à la tête du Parti libéral du Canada. Si M. Trudeau s'en va, est-ce que ça vous intéresse?
Moi, je vous dirais, M. Trudeau a été clair qu'il sera le chef du Parti libéral pour la prochaine élection, et c'est une très bonne chose.
Mais si jamais M. Trudeau prenait sa marche dans la neige et décidait de partir, est-ce que vous seriez intéressé?
Bien, je pense qu'il a été clair. Il n'y a pas de marche puis il n'y a pas de neige. Alors, cette question-là est réglée dans un sens. Le premier ministre du Canada, M. Trudeau, sera là pour la prochaine élection. Vous savez, la politique, c'est un sport d'équipe. Hein? On gagne en équipe ou on perd en équipe. Et ça, il faut toujours se le rappeler. C'est-à-dire que les gens vont regarder quelle équipe peut continuer de moderniser le Canada. Puis moi, mon rôle, c'est souvent de lever le niveau d'ambition, de saisir les opportunités, de raconter l'histoire du Canada. Il y a peu de gens qui se lèvent le matin dans le monde en pensant au Canada.
Est-ce que vous pensez que le Canada a perdu de sa pertinence sur la scène internationale?
C'est un monde complexe, mais le Canada, je pense, demeure cette voix-là que les gens veulent entendre. Moi, j'ai été ministre des Affaires étrangères, même encore aujourd'hui à l'international. Je vous donne un exemple. Dans l'intelligence artificielle, quand on a été appelé par le premier ministre britannique à cette grande rencontre-là à Bletchley Park, où ils ont décodé le fameux code allemand durant la Seconde Guerre mondiale, donc un endroit emblématique, le Canada était l'une des grandes voix. Moi, j'étais coprésident avec Joshua Benjo, qui est un des pères de l'intelligence artificielle, et tout le monde reconnaît la contribution scientifique du Canada.
D'autres vous voient chef du Parti libéral du Québec. Évidemment, la place est libre. Est-ce que vous pourriez faire le saut sur la scène provinciale?
Écoutez, moi, j'ai un siège ici, puis je l'aime. J'ai dit aux gens...
Non, mais
honnêtement, moi, je suis ici, puis j'ai dit... Je prends ça avec beaucoup d'humilité. Vous savez, il y a des gens qui m'inspirent, puis je prends ça avec humilité. Ça veut dire que, dans le fond, ce qu'on a fait, on fait avancer le Québec. Mais moi, j'ai été clair aussi que je serai candidat aux élections fédérales, à la prochaine élection fédérale. Alors, j'ai été clair là-dessus. Et je suis content de pouvoir servir les intérêts du Québec tout en
étant
ici.
Donc, vous fermez la porte?
Écoutez, la vie, c'est un long chemin. Mais c'est clair que j'ai dit à tout le monde que moi, je serai candidat aux élections fédérales qui s'en viennent. Et honnêtement, comme je fais souvent la blague, je pense que j'ai un emploi du temps assez chargé. J'apprécie tous ceux qui essayent de me trouver un autre emploi. Des fois, je me demande s'ils pensent que je devrais faire mieux. Mais je dis, écoutez, j'en ai une. J'ai un travail, puis j'ai beaucoup de choses à faire encore, puis j'ai comme l'impression que ça va bien. Mais j'apprécie tous ceux qui essayent de m'aider à me trouver un autre emploi. Je les remercie. Qui sait, un jour, peut-être que je serai animateur à la télévision. Peut-être qu'un jour, on fera de la télé ensemble. Tout est possible.
Ça sera un plaisir.
Tout est possible.
François-Philippe Champagne, on va continuer de vous suivre. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir accepté aujourd'hui dans l'émission. C'est un grand plaisir.